Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà pour une nouvelle webconférence et elle concerne les planificateurs, la grille, les grilles Hurantiennes et les transitions dimensionnelles. Donc ça, c'était par rapport donc aux deux dernières semaines de publication qui étaient là, donc bien sûr pour vous ramener un tout petit peu plus d'éléments. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les prochaines publications, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin à vous décrire des choses et que bien sûr, nombre de questions que vous posez, les réponses sont déjà dans les futures vidéos ou articles à venir, mais comme vous le savez, je peux pas tout mettre sur la table trop vite parce que en fait, vous n'arrivez plus franchement à suivre tout ce qui se passe. Mais pour quelqu'un qui sera relativement nouveau, on va dire, il aura tout le matériel sous la main, quoique, parce que quand il y a trop d'informations, généralement les gens lisent vite, n'ont pas le temps d'intégrer véritablement ce qui se passe et ils posent toujours des questions, sachant qu'il y a des articles entiers qui répondent à leurs questions. Mais ils posent des questions. Voilà, donc nous allons avoir le cas ce soir, puisque il y a GACT qui pose beaucoup de questions, et en fait la majorité des réponses ont déjà été données. Donc tout est déjà là, simplement il faut relire, tout simplement. Mais bon, je vais être gentil, je vais quand même répondre de nouveau. Alors commençons par une question de Corrigan. 7 milliards d'individus à l'échelle du jeu galactique, c'est infime en nombre de participants. Quand tu dis que les Hurantiens sont les meilleurs des meilleurs, à ce titre ça s'explique. Alors, il faut savoir que quand tu dis 7 milliards d'individus à l'échelle du jeu galactique, le jeu galactique comporte des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Donc, 7 milliards d'individus, c'est 7 milliards, il faut préciser, quand tu dis individus, 7 milliards de corps physiques. Parce qu'il n'y a pas 7 milliards d'esprits directeurs. Donc, comme tu le sais, l'esprit directeur peut s'incarner jusqu'à 9 fois simultanément, ce qui veut dire, on veut dire, la moyenne c'est 8. Alors là, on est 7 milliards, donc ce qui veut dire qu'il y aurait 1 milliard d'esprits directeurs qui joueraient en ce moment sur la planète. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nos esprits directeurs actuellement ne s'incarnent plus sur les autres planètes, dans d'autres corps, pour la simple et bonne raison, c'est que toutes les autres planètes ont déjà ascensionné. Donc, nous sommes... la planète expérimentale, donc la planète la plus difficile, puisque, comme vous le savez, toutes les couleurs sont représentées sur cette planète, et donc c'est plus dur d'accorder 9 couleurs différentes que de n'avoir qu'une seule couleur sur la planète. Donc tout se passe ici, maintenant, sur cette planète, Hurantia Gaia. Voilà. Cependant, par rapport aux trières de participants que les finalistes ne soit que sur une seule planète, et même si celle-ci pouvait contenir 100 milliards d'individus, ça resterait un pourcentage de 0,0, etc., par rapport au nombre de joueurs. Effectivement, c'est une expérience, et donc ça ne veut pas dire que tous les joueurs de toutes les galaxies ont besoin d'être ici. C'est-à-dire que ne sont sur cette planète que les esprits directeurs qui avaient cette capacité, qui avaient, on va dire, assez de bouteilles, pour pouvoir expérimenter ce jeu. Donc ils sont quand même bien sûr venus dans cette galaxie, mais dans cette galaxie, il n'y a qu'une seule planète où c'est vraiment la der des der, quoi. Donc c'est vraiment la zone la plus, excusez-moi du terme, mais la plus sombre, qui n'ait pratiquement jamais existé dans toute la création. Donc c'est pour ça que c'est l'école la plus dure. Et comme vous le savez, plus c'est sombre, plus c'est dur, et plus il faut que les individus, c'est-à-dire les esprits directeurs, soient de très 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 gros calibre pour pouvoir maintenir, car sinon ils auraient déjà, on ne va pas dire rendu l'âme, puisqu'ils sont immortels, mais auraient déjà capitulé. Alors il faut savoir que sur ces 7 milliards d'individus, on va dire 1 milliard d'esprits directeurs, il y a sur ces 1 milliard d'esprits directeurs, 999 millions, on va dire, si je donne un chiffre, qui ont déjà capitulé. Oui, il faut pas croire que parmi ces finalistes, c'est comme tous les gens qui vont on va dire dans une finale, par exemple, si je prends, on va prendre le tennis Roland Garros, ou par exemple les Jeux Olympiques, hein, si par, ouais, bon, coupe du monde de foot, quand même tous les joueurs qui sont sélectionnés dans toutes les équipes ont été sélectionnés. N'empêche que quand on arrive en finale, il reste plus que deux équipes. Donc il y a le jeu lui-même. Donc grosso modo, quand il y a une Coupe du Monde, tous les joueurs qui vont jouer à cette Coupe du Monde sont déjà des finalistes. Ben, disons qu'ils ont le ticket pour jouer, aller jouer la Coupe du Monde, et ils sont déjà par définition les meilleurs des meilleurs des joueurs de football. N'empêche que la partie se terminera avec deux équipes sur le terrain. Donc, comprenez que si vous regardez le nombre d'équipes qu'il y a en Coupe du Monde et le nombre de matchs qu'il y a, c'est impressionnant par rapport à une finale où il y a juste, on va dire, un match. Donc, sur le milliard d'esprits directeurs qu'il y a sur d'impliquer actuellement sur cette planète, eh bien, la 99%, on va dire, sont déjà hors course. Sinon, ça se saurait. Hein, c'est-à-dire qu'autour de nous, il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient ouverts et qui seraient déjà les pieds en 4D. On n'en serait pas dans cet état actuel. Hein. Donc, comprenez bien que là, les derniers instants avant, on va dire, le grand basculement, vont véritablement sélectionner qu'une infime partie de cette population. Ensuite, je continue. Or, il n'y a qu'un seul cordon d'Eléa, ce qui signifie bien que notre Terre est unique. Alors, bien sûr, notre Terre est unique, c'est vrai, et que donc le jeu aura été conçu et prévu pour qu'il n'y ait qu'un nombre infime de finalistes. Alors là, Corrigan, tu fais une relation qui n'est pas juste. C'est-à-dire que notre planète, Orontia Gaia, a été effectivement sélectionnée pour avoir le cordon d'Eléa. Le cordon d'Eléa est le 8e super-univers. Il faut savoir qu'il y en a 4 autres super-univers qui sont en création et qui ne sont pas en relation directe avec Eléa. Donc, déjà, il y a d'autres super-univers qui sont en construction, mais simplement, celui d'Eléa est le premier, on va dire, à être mis en œuvre véritablement, parce que les autres, bon, tout est éthérique, mais disons que celui d'Eléa est un petit peu plus avancé que les autres, et l'objectif est effectivement faire que les finalistes, parmi les finalistes des finalistes, qui sont les Orontiens, eh bien, il en sorte, on va dire, quelques graines exceptionnelles. Et donc, ces graines exceptionnelles, vont donner, on va dire, la note, d'une certaine manière, la note vibratoire pour ce fameux second cercle atomique. Donc, ce que j'ai jamais dit jusqu'à maintenant, c'est que, en fait, dans la réalité, nous allons acquérir de nouveaux corps physiques. C'est-à-dire, nous allons vers une nouvelle race. Hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle structure, on va dire, au niveau cubique. Et cette nouvelle structure a le plus de chances d'arriver, entre guillemets, sur cette planète. Pourquoi ? Parce que c'est là où se passe la pression maximale. Car comme vous le savez, plus nous allons dans la sombritude, c'est-à-dire plus nous allons dans la rupture de contact avec nous-mêmes, et plus cela veut dire que ceux qui vont réussir à rétablir le contact auront développé, parce que plus c'est noir, et plus forcément à côté c'est blanc. Et donc auront développé une luminosité absolument incomparable par rapport à toutes les autres populations et civilisations qui peuvent exister dans toutes les planètes de la création. Donc c'est pas par hasard que cette planète Orontia Gaia est aussi importante. Parce que en étant la der, elle en est aussi en même temps la première de la première de la première. Donc il y a une petite phrase dans la Bible qui dit que les derniers seront les premiers, et dites-vous bien que c'est le cas. C'est-à-dire que d'abord, c'est la planète Orontia Gaia qui, entre guillemets, est là pour développer le premier embryon de super-univers dans le deuxième cercle atomique, qui est le 8e super-univers. Mais il aura bien sûr le 9e, le 10e, le 11e et le 12e. Et ils ne seront pas forcément en relation avec la planète Urantia Gaïa. Sauf que, exceptionnellement, et ça pour l'instant on m'a pas donné de réponse ferme à ce niveau-là, il faut dire que j'ai pas vraiment posé la question, mais globalement, Urantia Gaïa aura en fait deux super-univers. Sera en connexion avec deux super-univers. Donc déjà cela. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens considèrent Eléa comme si c'était une planète. Eléa n'est pas une planète, c'est un super univers. Déjà. L'autre chose, c'est que actuellement, il y a, on va dire, absolument aucun humain qui va pouvoir y aller, puisque nous sommes à des années-lumière de ce qu'il faut être pour pouvoir y arriver. Donc c'est pour cela qu'il est prévu que, bien sûr, Urantia Gaïa passe en 5D6D, afin que parmi les finalistes des finalistes des finalistes, eh bien, il puisse y avoir un nombre suffisant d'individus qui pourront y aller jouer. En gros, je résume. Terre-mère est en train d'alimenter le cordon d'Eléa, de fabriquer le 8e super-univers d'une manière, on va dire, matérielle. Hein, et ce super univers commencera à être habité par d'autres entités que les Urantiens, car d'autres entités, elles sont déjà prêtes pour ça. Donc vibratoirement, elles sont déjà prêtes, elles ont l'expérience pour pouvoir aller y jouer. Cependant, ils n'ont pas encore la technologie, on va dire, du futur corps de manifestation qu'il faudra pour aller jouer là-bas. Donc là, je ne peux pas vous dire un certain nombre d'informations car c'est, on va dire, ultra confidentiel, mais sachez que sur cette planète, il y a quelques individus qui ont développé des véhicules de manifestation hors normes. Et ils sont, bien sûr, en état d'ascension pour certains et d'autres complètement ignorants que l'ascension existe. Ça n'empêche quand même qu'à côté, ils ont, on va dire, développé un corps de manifestation assez exceptionnel. Et donc actuellement, ces individus sont suivis, et partant de ces améliorations qui ont été faites, on va dire, dans le fourneau urantien, eh bien, il y aura donc une nouvelle structure qui sera dégagée. Pour l'instant, cette nouvelle structure n'est pas encore suffisamment stable, et ça ne sera seulement que quand il y aura eu un certain nombre de sélections, c'est-à-dire que vous le savez qu'il y a un grand événement à venir, qu'il y aura plusieurs sélections successives, entre guillemets, pour éliminer tous ceux qui de toute façon ne tiendront pas de choc. Je vous rappelle qu'on élimine d'une certaine manière des véhicules physiques, mais que les entités, les esprits directeurs sont immortels. Donc eux, bah, ils iront simplement sur une autre planète et se retrouveront dans un autre corps physique, hein, et pas celui d'Urantia Gaïa, pour la simple bonne raison, c'est que chaque atome qui est d'Urantia Gaïa appartient à Terre-mère et n'ira nulle part ailleurs. Donc toutes les personnes qui vont être, on va dire, transposé sur les 10 autres planètes, se retrouvent dans un nouveau corps et qui ne passera pas par la naissance. C'est-à-dire qu'ils se retrouveront dans un corps physique déjà arrivé à maturité. Donc, parlant du nombre infime de finalistes, il y aura effectivement un nombre infime de finalistes. Par rapport aux moyens mis en œuvre et aux résultats prévus dès le départ, il semble y avoir un déséquilibre qui rend le tout pas très efficace au mieux et injuste au pire. Pourrais-tu nous éclaircir ? Eh bien, il n'y a absolument aucun déséquilibre, car comme tu le sais, tout est parfait dans la création. Et il faut savoir que quand quelqu'un, par exemple, si je prends le championnat de boxe ou n'importe quoi, quand il est élu le champion du monde, ou que aux Jeux Olympiques tel boxeur a la médaille d'or, il est le finaliste des finalistes. Et il n'y a aucune injustice, c'est par définition le meilleur qui gagne. Et donc le meilleur au niveau de la création, c'est celui qui aura développé le corps de manifestation le plus pur. Le plus pur. Le plus efficace, le plus simple. Et donc, vous comprenez que en étant dans la forge urantienne, dans cette école extrêmement difficile, extrêmement dure, les finalistes qui vont sortir sont de très 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 loin exceptionnels. Parce que si vous naissez dans un terrain mou, vous serez un mou. Mais si vous êtes né dans un terrain extrêmement dur, vous serez de consistance dure. Et donc, vibratoirement parlant, plus nous sommes éloignés de la source, de nous-mêmes, de notre soi supérieur, eh bien, plus il nous a fallu, entre guillemets, résister. Et donc, ceux qui ont réussi à maintenir le contact, et aujourd'hui, vous êtes parmi ceux-là, je vous signale, si vous ne m'écouteriez pas, eh bien, ça veut dire que malgré ces milliers d'années, ces dizaines de milliers d'années, pour pas dire 325 000 ans d'involution, eh bien, on est toujours en contact. Ce qui veut dire que, avec toutes nos incarnations, nous avons quand même réussi à épouser tous les rôles inimaginables qu'il y a eu sur cette planète, tout en réussissant à rester connecté. Donc, si aujourd'hui, en tant qu'humain, on va dire de 4D, hein, eh bien, vous êtes sur le chemin ascensionnel, cela veut dire que toutes vos autres vies ont été là pour cela. Parce que, comme je vous le disais, elles se déroulent toutes en même temps. Et donc là, je ne vais pas commencer à répondre aux autres questions qui sont plus loin, hein, puisque il y a des questions qui vont revenir par rapport à ça, donc je vais en reparler. Hein. Donc, le jeu a été très 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 efficace, il a été très, comment dire, sélectif, et je ne vois pas en quoi la sélection est une injustice, parce que tout est équilibré. Dites-vous bien que les forces de l'ombre, par définition, c'est 50%, puisque c'est du masculin en fait, et il y a en face du féminin 50%. Donc, tout est équilibré. Simplement, après, tout dépend jusqu'où on va dans la sélection. Et donc, les gens qui, aujourd'hui, sont sur le chemin, sont ceux qui ont su conserver un minima d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre féminin-masculin-minima qui a été conservé malgré toutes les incarnations que nous avons faites et toutes les expériences que nous avons faites. Bien, maintenant, on va passer à une question de Gact. Une des premières, parce que bon, pratiquement les deux tiers des questions, c'est lui, mais ça va permettre, merci Gag, de pouvoir remettre à plat un certain nombre de choses. Tu répètes souvent qu'Orentia Gaïa est la dernière planète de toute la création. Alors, maintenant, problème, la dernière planète par rapport à quoi? Donc, ça veut dire que, par rapport à notre système planétaire, elle est la dernière à ne pas avoir ascensionné. Ok? Et ceci, effectivement, c'est un fait. Et c'est normal, hein, puisque on sait que c'est la plus dure. Comment peux-tu savoir que c'est la dernière des dernières? Nous sommes dans le septième super-univers. Hein, donc là, faut faire des rappels. Le septième, il vient après le sixième, le cinquième, etc., etc. Donc le septième super-univers est le dernier super-univers, puisque le cordon des lames mène au nouveau, qui est le huitième, premièrement. Deuxièmement, nous sommes dans la galaxie, parce que dans le septième super-univers, il y a des milliards de galaxies, je vous signale. Donc nous sommes dans la galaxie, et dans le système solaire, qui est le plus éloigné de tout, entre guillemets, en termes vibratoires, puisqu'il est dans l'expérience la plus involante qui soit. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes la dernière des dernières, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous serons les premiers des premiers des premiers. D'où le cordon des liens. Voilà, c'est de la logique pure, dure, simple. La planète la plus difficile jamais expérimentée de tout l'univers, c'est pas la planète la plus difficile, c'est le bac à sable le plus difficile, parce que la planète Terre, en tant que telle, possède effectivement beaucoup d'avantages que n'ont pas un certain nombre de planètes. C'est-à-dire que pour que l'expérience soit menée avec toutes les possibilités, il faut savoir que toutes les formes de vie du septième super-univers sont présentes sur Terre. Il nous est normal de penser qu'il y ait des oiseaux du côté de chez nous et qu'il y a des centaines de milliers d'espèces différentes d'oiseaux. Ça nous semble une évidence, on dit « ouais, bah, c'est normal ». On peut prendre la même chose pour les vers, pour les papillons, pour les poissons. C'est faux. Il y a des planètes où, par exemple, des planètes d'eau, il n'y a que des poissons. Et quand on dit il n'y a que des poissons, on va trouver que certains types de poissons et pas d'autres. Nous, on a quasiment toutes les variétés. Concernant les insectes, on a toutes les variétés. Concernant les arbres, on a toutes les variétés. Concernant tout, 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 toutes les formes de vie ont été implantées sur la planète Terre. Voilà pourquoi c'est une planète exceptionnelle. Et tous les trésors ne sont pas sous nos yeux. Car vous savez que le principe de l'involution a tout fait pour détruire un maximum. Et donc un certain nombre de trésors sur cette planète sont conservés dans l'intra-terre. Et aussi dans, on va dire, le cristal central de Terre-Mère. Donc il y a beaucoup de choses encore à découvrir, parce que au fur et à mesure, on va dire, de l'involution, un certain nombre de choses ont été, on va dire, retirées de la planète Terre. Car il y a des gens qui s'inquiètent, ils disent « oui, il y a telle race d'animal qui a disparu, etc. » Ils n'ont pas disparu, ils ont disparu à la surface, on est d'accord. Mais dans la réalité, ils sont toujours sous forme, on va dire, d'informations dans le cube central de Terre-Mère. Ce qui veut dire que quand le cordon d'Elea sera fait, eh bien, elle pourra redéployer ces informations et donc ces races animales qui sont apparemment disparues à la surface sont toujours en fait vivantes. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas se prendre la tête avec tout ça et que avec le principe de l'ascension qui se passe actuellement, si on va dire les races animales disparaissent alors que l'homme n'y est pas forcément pour quelque chose, c'est parce que pour eux l'expérience de la 3D 4D est terminée, et comme dirait l'autre, ils font comme notre soi supérieur, ils retournent auprès de l'esprit directeur et ils attendent leur prochaine incarnation. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que aucune vie, aucune espèce qui a été implantée sur la planète n'a disparu. Elle n'a disparu, on va dire, dans les archives. Tout a été archivé, absolument tout. Donc de ce côté-là, c'est pas la peine d'essayer de sauvegarder en disant « ouais, on va retrouver une cellule de mammouth et puis on va essayer de recréer les mammouths parce qu'ils ont disparu, les mammouths ». Ils ont disparu parce qu'il fallait qu'ils disparaissent. Et on peut dire que la race humaine qu'il y a actuellement sur cette planète va aussi disparaître. Parce que nous sommes une race, hein, un code génétique spécifique dans un véhicule spécifique, et quand nous allons passer en 5D 6D, nous aurons un nouveau corps, c'est-à-dire une nouvelle structure qui sera bien sûr beaucoup plus adaptée. Donc c'est pour cela que comprenez bien que si vous continuez à croire que vous êtes votre corps et que vous allez suivre avec votre corps toute la musique, vous avez un problème. Dans la réalité, nous allons abandonner ce corps et un nouveau nous sera donné, mais comme dirait l'autre, on ne va pas distribuer de nouveaux corps hyper performants à des gens qui, mentalement et spirituellement, ne sont pas au niveau. Dit autrement, les gens qui vont aller sur les 10 planètes vont se retrouver dans des corps classiques, hein, c'est-à-dire avec une technologie. Alors si on considère qu'on est, je me confonds un peu dans les races, mais on va dire la 5e race, évolutive sur cette planète, eh bien, ils se retrouveront, par exemple, dans un corps de 5e race évolutive. Par contre, les gens qui vont passer effectivement en 5D, 6D, se retrouveront dans un corps de 6e race. Voilà, donc, on ne va pas partir, comme dirait l'autre, avec, on n'aura pas les mêmes voitures. Hein. C'est les gens qui sont sélectionnés et qui arrivent à passer là-bas pour aller en 5D, 6D, auront un nouveau corps, mais avec une technologie différente, enfin encore plus sophistiquée que celle que nous avons actuellement. On va dire plus sophistiquée, plus adaptée par rapport au travail que nous aurons à faire. Car vous le savez bien, quand nous allons passer en 5D, 6D, car une partie de cette population va effectivement passer en 5D, 6D, d'abord, nous serons tous des immortels. Donc, ça veut dire que la notion de mortalité va disparaître, hein, parce que si vous pensez encore mort, vous ne pourrez pas passer en 5D, 6D. Donc, ne passeront en 5D, 6D que les immortels. Or, il faut savoir qu'un immortel, par définition, est mortel physiquement. Eh oui, c'est ça qui est... Donc, il peut vivre longtemps, mais si quelqu'un le tue, il est mort. Donc, ça, c'est par rapport au corps physique. Donc une fois que vous devenez, on va dire, un immortel, c'est-à-dire que vous avez développé votre corps d'immortalité qui se trouve en 5D, 6D. Partant de là, ça veut dire que vous ne perdrez aucune mémoire de tout ce qui s'est passé, et que quand il y aura la transition qui se fera en 5D6D, vous allez être translaté dans un nouveau corps, sans passer par le ventre d'une femme, et vous aurez la totalité de toute la conscience que vous avez au moment du passage. Donc, tous les gens qui passeront en 5D6D vont donc être des immortels par définition. Et donc, quand vous êtes un immortel, ça veut dire que vous vivez aussi longtemps que votre corps peut le faire. Or, ce corps était prévu, le corps de cinquième race, c'est-à-dire celle que nous avons actuellement, était prévu quand même pour vivre au moins 1200 ans. Et donc, il est fort probable que ça soit poussé entre 4 et 5 000 ans. Donc, quand vous serez dans un nouveau corps qui va vivre 4 ou 5 000 ans, vous aurez une autre vision des choses quand même, hein, tout en sachant que en 5D6D, le travail n'existera pas, hein, que le fric n'existera pas, hein, que toute la société que nous connaissons aujourd'hui n'existera pas. Donc, ça suivra les lois de l'un, et ce qui est très 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 différent, et nous serons dans un espace-temps qui n'a rien à voir avec hier, aujourd'hui et demain. Donc, il n'y aura pas de calendrier grégorien, et tout ça n'existera plus. Donc, l'objectif, c'est de la 5D6D, pour tous les Ourantiens, ça sera tout simplement de devenir Christ. Hein, c'est-à-dire, ben, entre les deux, de immortels, ils passeront à être ascensionnés, ensuite Christ. Et une fois qu'ils sont Christ, eh bien, ils vont pouvoir aller jouer ailleurs. Et donc, où vont-ils aller jouer, d'après vous? Eh bien, ils iront jouer, bien sûr, dans le 8e super univers. Voilà pourquoi Termer, Urantia Gaia, est une porte d'accession au 8e super univers. Donc, il y aura dans ce 8e super univers des milliers de galaxies. Alors, bien sûr, on va pas en apparaître instantanément des milliards à des milliards. Il y en aura une, deux, trois, quatre, cinq, etc. Et selon, on va dire, la vibration des Ourantiens, eh bien, ils seront dispatchés dans différentes, on va dire, galaxies en fonction, on va dire, des rayons initiaux à laquelle ils appartiennent. Car vous savez que nous sommes tous issus de rayons différents, hein, c'est-à-dire de couleurs différentes, donc les sept rayons classiques. Et donc c'est pour cela qu'il va y avoir des Ourantiens qui iront sur, on va dire, qui sont du rayon rouge et qui iront expérimenter une galaxie rouge dans le 8e super univers. Et puis bah, ceux qui sont dans un rayon bleu, bah, ils iront sur une galaxie expérimentant le rayon bleu, etc. Donc les Ourantiens ne vont pas forcément se retrouver dans la même galaxie, sur la même planète. Donc c'est ça qu'il faut aussi mettre au point. Tout le monde pense que Eléa est une planète. C'est pas une planète en soi, c'est le 8e super univers dans lequel va se développer des milliards de galaxies, et on sait que dans chaque galaxie, il y a des milliards de planètes. Donc chaque Ourantien deviendra, par définition même, on va dire un soleil. C'est ça qu'il faut comprendre. Certains Ourantiens deviendront des soleils de systèmes planétaires, pendant que d'autres deviendront des systèmes, des soleils centrales, c'est-à-dire le soleil qu'il y a au centre d'une galaxie. Donc tout va dépendre de nos origines et surtout de la qualité, on va dire, d'amour et donc christique à laquelle nous serons arrivés. Donc beaucoup de gens parlent, ouais, ou Antia, machin, ou Antia Gaia, mais surtout Eléa, oui, nous on va y aller, ceci, c'est qu'ils n'ont rien compris au film. Ils croient que Eléa est juste une planète sur laquelle ils vont mettre les pieds dessus, et parce qu'ils sont Antiens, c'est leur droit d'être sur Eléa. C'est absolument faux, ça n'a rien à voir. Alors, maintenant reprenons les questions de Gact. Est-il possible qu'une planète identique soit en préparation? Alors, là, il n'y aura pas pour l'instant de planète identique à Ourantia Gaia, puisque pour l'instant, comme je disais, il va y avoir des essais de galaxies, on va dire, dans ce 8e super univers. Donc on ne parle pas de planète, car dites-vous bien que... je peux pas tout dire et tout écrire, mais ça se fait pas en un claquement de doigts, tout ça. Les planificateurs ont attendu 2000 ans, temps terrestre, pour enfin prendre une décision ascensionnelle pour Ourantia Gaia. Pourquoi cela ne s'est-il pas fait avant? Alors là, bah, Gact, problème, c'est qu'il faudrait que tu écoutes mes webconf, un peu quand même, ou que tu ailles lire, parce que tout ça, j'ai déjà répondu. Il faut savoir que si Christ, enfin, on va dire, Sananda s'est incarné dans le fameux Yeshua, Ben Joseph, c'est que tout simplement, et il y avait une raison, c'est que l'humanité est arrivée à une agonie totale. C'est-à-dire que le fait que Sananda vienne s'incarner et devienne Christ grâce à Marie-Madeleine, car il faut savoir que c'est un couple, il a redonné une étincelle, on va dire, à l'humanité, parce qu'en fait, pratiquement tout le monde était éteint. Et donc, en redonnant cette étincelle, eh bien, il a permis, d'une certaine manière, à ce qu'il y ait 2000 ans de nouveau, nouvelle ère, entre guillemets, de redonner à l'humanité. Si cela n'avait pas été fait, si Sananda n'avait pas, on va dire, apporter cette vibration christique à la planète, eh bien, l'humanité actuelle n'aurait jamais vécu les 2000 ans dont tu parles. Donc il n'y a pas eu de problème de planificateurs qui ont attendu 2000 ans pour agir, c'est qu'il a été accordé 2000 ans supplémentaires. Donc ils ont fait quelque chose, hein, et ils l'ont fait en, effectivement, planifiant la venue de Sananda, afin qu'il devienne Christ avec Marie-Madeleine. Sinon, s'ils n'avaient pas fait ça, on ne serait pas là en train d'en parler. À propos de la Terre, sachant qu'elle n'est pas faite pour accueillir 7 milliards d'âmes, actuellement, les ressources s'épuisent, la nourriture fait craindre le pire. Dans 10 à 20 années, le nombre d'habitants aura-t-il doublé? Alors d'abord, le nombre d'habitants n'aura pas doublé, déjà premièrement. Et deuxièmement, c'est que s'il y a une surpopulation actuellement, c'est parce que la fin du jeu est plus que proche, elle est imminente, et c'est pour cela qu'il y a eu une surpopulation. C'est-à-dire que tous les esprits directeurs ont balancé toute leur étincelle d'esprit qu'ils pouvaient, en disant « il faut qu'on y aille maintenant, parce que après, c'est trop tard ». Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Et vous savez, c'est comme quand vous appuyez sur l'accélérateur pour doubler un poids lourd, c'est vous allez faire une pointe de vitesse, mais c'est pas fait pour durer. Parce que ben sinon, au lieu de faire les 300 km qui étaient prévus avec votre réservoir, vous allez en faire 50. Donc, c'est ce qui se passe. Hein. Donc là, comme dernier, les dernières gouttes d'essence sont mises dans l'accélération actuelle, mais il est évident que les ressources de la planète sont absolument insuffisantes pour que ça continue et que ça dure. Donc, d'une logique, on va dire, implacable, soit nous arrivons à faire qu'un certain nombre d'individus arrivent à ascensionner, afin que le jeu puisse continuer, on va dire, version 4D, parce que dites-vous bien qu'avant d'arriver en 5D, 6D, il va falloir qu'on devienne des immortels. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'est d'arrêter, on va dire, la vision 3D, et de passer en 4D. La 4D, je vous rappelle, c'est la vision du cœur, et donc du partage, et donc de l'amour, d'une certaine manière, et du partage de l'information, puisque l'amour c'est le partage d'information, mais sur plusieurs dimensions. Donc, concrètement parlant, sur ces 7 milliards actuels, et puis bah, comme il y a une inertie des naissances, etc., ça pourra peut-être monter à 8, moi je vois pas du tout à 9, mais il va y avoir, comme dirait l'autre, une éradication assez importante, dans un délai relativement proche. Et donc, cette première éradication concerne un tiers de la planète. Enfin, un tiers des habitants de cette planète. En clair, d'un seul coup, il y a un tiers des voyageurs qui vont quitter le bateau. Donc là, les ressources de la planète vont pouvoir, on veut dire, continuer à alimenter, parce qu'il y aura déjà moins de prélèvements, hein, faits par les humains, qui sont actuellement coincés dans un matérialisme outrancier et dans une consommation effrénée. Donc, il est évident qu'il va y avoir de gros changements en termes industriels et de prélèvements, puisque dans ce un tiers de prélèvements de la planète, c'est pas un tiers du peuple, c'est un tiers, c'est-à-dire les plus sombres et les plus déconnectés. Des lois de l'un. Donc, il va y avoir une rehausse, on va dire, du niveau vibratoire de la planète, par élimination de un tiers de la planète, de ceux qui ne pourront absolument pas suivre. Donc c'est pas quelqu'un qui va juger, dire « ouais, celui-là, faut le dégager, celui-là, non ». C'est que Terre-Mère augmente sa fréquence, Papa-Soleil identique, le Soleil central identique, et ceux qui ne tiennent pas la charge, eh ben ils vont aller se retrouver sur les 10 planètes. Sachant que, je vous signale, que au moins la première vague, ça sera planète 1, 2 et 3. c'est-à-dire celles qui sont faites pour les plus involuants qui soient. Donc, grosso modo, ça va faire un nettoyage par le bas. Et donc, par le bas, ça ne veut pas dire que ça correspond aux plus pauvres, c'est faux. C'est-à-dire que c'est plutôt l'inverse qui va se passer. C'est tous ceux qui sont derrière les manettes et qui sont des nantis qui ont à craindre, on va dire. C'est pas le cas du peuple et le pauvre, parce que eux, ils sont plus souvent dans le cœur. Parce que quand vous n'avez pas de fric, généralement, vous êtes plus dans le cœur. Par contre, quand vous avez des fric, vous êtes moins dans le cœur. Donc, quand vous êtes moins dans le cœur, vous allez avoir du mal à encaisser la vibration féminine du cœur. Résultat concret, ben, vous allez avoir plus de chances de dégager. Donc, il va y avoir un nettoyage par le bas vibratoire, et non pas par le bas financier ou garde-vie. Donc, dans 10 à 20 années, nous ne serons pas 7 milliards d'individus sur cette planète. Actuellement, 1 milliard d'êtres humains n'ont pas le nécessaire pour se nourrir, y compris les animaux. Si ça continue dans ces vols, l'événement sera d'une ampleur inimaginable. Le pillage, le vol, la guerre seront inévitables. J'ai pu apercevoir cela se passer peu à peu. Et oui, c'est normal. Il va y avoir effectivement des gens qui vont paniquer. Et c'est ainsi. C'est-à-dire que ceux qui paniqueront et qui feront des actes de sauvagerie pour soi-disant sauver leur corps, c'est-à-dire leur vie, ce qu'ils pensent être, veut dire qu'ils ne sont tout simplement pas au niveau. Donc, ils partiront, tout simplement. Donc, ne croyez pas que ça va se passer seulement parmi les crèves de la faim, pas du tout. Ça va aussi surtout se passer par ceux qui avaient des moyens et qui d'un seul coup vont les perdre. D'accord ? Donc, je parle de tous les pays dits civilisés et qui ont un art de vivre où ils considèrent qu'avoir l'eau courante, c'est normal, etc. Donc, là, ça va être craignos. Hein ? Tu dis aussi que plusieurs êtres venus d'autres galaxies veulent expérimenter au moins une fois de leur existence l'ascension sur Orontia Gaïa. Ne faut-il pas que ces âmes pensent à ceux qui sont déjà en bas et qui peinent à marcher ? Eh bien, ça fait partie de l'expérimentation. Car si une nouvelle âme, on va dire, ces êtres qui viennent de d'autres galaxies, voire même de la galaxie, s'ils ont envie de s'incarner dans un pays excessivement défavorisé et pour être un crève-la-faim, c'est que ça fait partie de leur expérimentation. Donc ça ne veut pas dire que ceux qui viennent vont forcément prendre les meilleures places. Ils vont venir expérimenter, les places les plus difficiles et de voir comment. Parce que, en fait, il faut quand même considérer la chose. Qu'est-ce qui fait que Orontia Gaïa est si précieuse? C'est parce que c'est très dur. L'involution a mis les choses très 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 fortes, on va dire. Et donc, les nouvelles âmes qui viennent, ils vont pas s'incarner en banquier. Ils vont pas s'incarner en mec Richard qui vont voler en Rolls. Ils vont aller venir s'incarner dans les situations les plus pénibles. Et de ces situations les plus pénibles, ils vont voir comment ils vont pouvoir s'en sortir. Voilà pourquoi une partie de la population, même dite sous-développée économiquement parlant, ne veut pas dire qu'ils sont sous-développés spirituellement parlant. Et je dirais même que c'est l'inverse, c'est eux qui vont montrer le chemin, puisque quand vous êtes habitué à pas bouffer ou à bouffer pas grand-chose, vous pouvez partager vos ficelles avec les autres. Parce que ceux qui ont le frigo qui est plein avec le congélateur qui est plein, le jour où ça va être vide, ils ne sauront même pas quoi faire. Par contre, celui qui a un crève la dalle depuis plusieurs années, il dira, écoute, tiens, tu manges ça, puis tu fais ci, puis tu fais ça. Donc, il faut sortir des schémas classiques, entre guillemets, de croire que il n'y a que les riches qui vont survivre et que c'est les pauvres qui trinquent. Ça n'a rien à voir. À quoi cela va-t-il servir de s'incarner si déjà les anciens ont du mal à marcher avec le peu de ressources ? Ils ont du mal à marcher avec le peu de ressources parce que la grande majorité sont venus l'expérimenter. Mais en termes d'esprit directeur ou d'étincelle d'esprit, ils sont des nantis par rapport à ceux qui sont en train de venir. Pourquoi ? Parce que comme ils sont quand même les finalistes des finalistes. Les planificateurs ne doivent-ils pas envisager d'arrêter le processus d'incarnation définitivement sur Gaïa ? Les planificateurs, ils n'ont pas un cerveau comme toi et moi. Ils voient les choses d'une manière absolument différente parce que ils sont les ceux qui sont en charge du bon déroulement du jeu. Ça veut dire qu'ils sont quasiment en contact direct avec le sommet. Donc, ils ont des visions des choses que nous ne pouvons à peine imaginer. D'ailleurs, je rappelle que les planificateurs n'ont aucune forme de matière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps. Donc, ils n'ont pas les bras, ni des têtes, ni des jambes. D'accord ? Déjà, ça, faut comprendre ça, déjà. Donc, ils connaissent pas la mort. Et ça, pas du tout, puisque c'est du féminin, féminin. C'est la vibration ou la vibration. Donc, ils sont la source. Donc, quand la source décide quelque chose, c'est les planificateurs qui la rendent réelle dans notre galaxie. C'est tout. Donc, c'est pas des cerveaux avec des neurones et qui pensent. Par contre, ils suivent les tendances qui leur sont données par le sang lui-même. Maintenant, une autre question, toujours de Gact. L'axe ou la position orbitale de Gaïa dans le système solaire est-il en train de se modifier depuis sa position actuelle du fait qu'elle est en train de passer en cap D pour se rapprocher du Soleil, sachant que l'éloignement était volontaire pour nous séparer de la source? Alors, mon ami, là aussi, il y a absolument aucune relation entre la distance de la planète et le Soleil. Donc, je ne vois pas en quoi le fait d'être en cas D va rapprocher, on va dire, terre-mer du Soleil. Non, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Donc, là, il y a une conception spatiale fausse. Et le Soleil, comme dirait l'autre, tu dis c'est la source, disons qu'il il est un embranchement de la source, car la Terre est elle-même aussi la source. Dans son cristal central, elle reçoit effectivement l'information qui passe par Papa Soleil, mais qui lui-même est alimenté par le Soleil central, qui lui-même est alimenté par l'îlot central. Donc, de toute façon, Terre-Mère est reliée à la source, puisqu'elle est une représentation de cette source. D'ailleurs, tout comme nous. Il n'y a pas de rapprochement physique à faire. Parce que si elle se rapproche trop du Soleil, la vie deviendra quasiment infernale. Enfin, il n'y aura plus aucune forme de vie en 3D, 4D. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Mais il n'y a pas besoin de ça. Le simple fait que le bouclier électromagnétique va disparaître va faire que tout ce qui va être à la surface de la planète va ni plus ni moins griller sur place. Donc, il n'y a pas besoin qu'elle se rapproche. Comment cela se fait-il que Pluton, Jupiter, Saturne, Neptune sont en 5D, 6D alors qu'ils ont un éloignement assez important par rapport aux positions du Soleil central? Alors là, tout pareil, c'est toujours la même erreur. Il n'y a absolument aucune relation entre la distance et la position. Si tu regardes l'arbre sphérotique, au niveau du corps, c'est pourquoi tu dis pourquoi le poumon est-il plus proche du cœur par rapport au point qu'il y a dans la hanche. Non, c'est un système, c'est un cube, et ils sont tous à la même distance. Simplement, physiquement, spatialement, on a l'impression qu'il y a de la distance. Mais, on va dire, dans la conception, il n'y a pas une planète qui est plus proche que les autres. Dans un cube, vous savez, chaque planète, j'ai dit que chaque planète était au sommet du cube, dites-moi si un sommet est plus proche du centre que les autres. Absolument pas. Donc, je vois pas pourquoi l'orbite de ces planètes devrait se rapprocher du Soleil. Non. L'axe a-t-il à voir quelque chose du fait de l'éloignement ou est-ce mathématique? Ni l'un ni l'autre, chef. Ni l'un ni l'autre. Bon, j'ai expliqué déjà tout ça, donc je ne vais pas aller dans le détail. Bon, concernant l'action des planificateurs, une question de Seb. Pour faire le lien avec les planificateurs, je rebondis sur les prévisions astrologiques de Pierre de Châtillon, astro-archéologue, dont la précision des influences astrales sur notre planète est relativement fiable. Il avance l'année 2019 pour le basculement des pôles. Or, si je m'en tiens au calendrier que tu as développé à partir de fin 2012, l'année 2009 serait l'année 7, comme par hasard. Les planificateurs, pour en revenir à eux, utilisent certainement parmi les multiples outils qu'ils ont à leur disposition, l'horlogerie cosmique, je suppose, Les astres dans la matière doivent donc être les relais des énergies plus subtiles et le cheminement des préhumains qui doit s'adapter à l'élévation de fréquence est balisé. Effectivement, c'est-à-dire que les planètes sont une horlogerie, c'est-à-dire l'aspect spatial d'une vibration qui est envoyée. Or, nous savons que nous sommes basés sur ces planètes puisque c'est notre structure interne, puisque c'est l'arbre sifférotique qui est bien en nous. Donc tout ce qui se passe au niveau des planètes se passe en nous. Voilà comment nous sommes impactés par les planètes, biologiquement parlant. Aussi, si nous entrons l'année prochaine dans l'année 4 correspondant au chakra du cœur, et qu'en plus la France est le chakra cœur planétaire, on peut penser que tous les problèmes actuels qui s'accentuent au fil des semaines seront traités chez nous avec plus d'intelligence du cœur. Alors, j'ai écrit un article qui va paraître demain à ce sujet, et ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement nous sommes le plus dans le chakra du cœur, mais aussi en même temps le cartésianisme a été bien sûr décrété la grosse logique pure et dure, Descartes, c'était un Français, ce qui veut dire que nous sommes dans une polarité extrême, car il fallait développer cette polarité extrême, c'est-à-dire que si nous avions été uniquement dans le cœur et qu'il n'y avait pas eu un développement correspondant de la partie 3D, c'est-à-dire de la partie de la logique mentale, eh bien, il y aurait un très gros déséquilibre et la France n'aurait pas pu être, un point central de la civilisation qu'elle a été pendant un certain temps, parce que elle serait fait bouffer par tous les autres autour. Donc, si les Germains ont voulu débarquer plusieurs fois chez nous, etc., etc., la France est un carrefour. 45e parallèle est un carrefour. Et donc, il fallait qu'elle développe impérativement cet aspect, involutif, important, cet aspect masculin. Donc, c'est pour cela que, si tu regardes bien, qui a inventé le système décimal? Les Français. La France est le point central d'une certaine logique et a été aussi, la source de nombreux de la science d'une certaine manière. Pourquoi, vous pouvez vous poser la question, pourquoi Léonard de Vinci est-il venu vivre en France, etc. Vous pouvez poser des questions. Pourquoi, Saint-Germain était en France? Pourquoi on parle de Merlin? Alors bien sûr, il y a eu des tas de gens qui ont vécu un peu partout dans les autres contrées, mais quelque part il y a une très très forte concentration en France parce que c'était là que se faisaient les choses principalement. Donc, la France a donc, bien sûr, cette partie du cœur, mais a aussi ce parti de cette logique, de cette fameuse centralisation, bien qu'il parle de décentralisation depuis quelques décennies, en fait, c'est toujours centralisé. Vous voulez détruire la France, vous détruisez Paris, et puis après, c'est bon, quoi. La France n'existe plus. Donc, ça veut pas dire que nous serons dans le cœur, on est d'accord, mais à côté, il va y avoir une logique pure et dure, et donc, il va falloir s'attendre à des clashs. Et s'il y a eu un 1789, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, une logique pure et dure a été balayée par un mouvement du cœur qui a été logique aussi. En d'autres termes, vous savez que 1789, c'est parce que les gens crevaient la faim, et ils crevaient la faim pourquoi? Parce que le système financier de l'époque avait été une arnaque totale, comme c'est celui du cas aujourd'hui. Donc les banquiers ont fait faillite, qui a entraîné, une pauvreté, les crèves-la-faim a pu savoir quoi en foutre, et grosso modo, le peuple a réagi en tant que survie. Et il a été vachement logique, il a dit tous ceux qui étaient au pouvoir, d'une manière ou d'une autre, eh bien on leur coupe la tête. Donc, et même ceux qui étaient à ce niveau-là, qui coupaient les têtes, se sont eux aussi ensuite fait couper les têtes. Ce qui a amené ensuite un petit gars qui s'appelle Napoléon et qui a mis tout le monde au carré. Lui, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Il n'était pas en France, c'est à Corse. Donc, il était beaucoup plus loin. Il était très, très désaxé par rapport au centre de la France. Et il est venu donc avec des idées et il a donc fait tout ce qui est la constitution de la France aujourd'hui. Tout le code pénal que nous connaissons aujourd'hui a été fabriqué par Napoléon. Donc, ça veut dire que c'est un petit gars qui a remis tout le monde d'accord, et vous avez vu ce que ça fait, c'est devenu un empereur, et ça poussait les murs très très loin. Bref, Donc, il va y avoir, ça a été une vague, ça a été un renouveau, hein, eh bien, il va falloir donc s'attendre à ce qu'il se passe des choses en France, qui vont être, on va dire, autant, qui peut être une boucherie, qui peut être une boucherie, comme ça peut être à côté, après, un élan du cœur incroyable. Donc là, c'est l'avenir qui nous le dira, et c'est pour ça que dans l'article de demain, je vous raconte donc un certain nombre de choses, en disant restez très 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 centrés, parce que ça va déraper très vite, hein, puisque nous avons cette dualité énorme en tant que chakra du cœur. Alors, voilà. On peut aussi supposer que l'éveil d'un plus grand nombre aidant l'année suivante, chakra gorge, permettra de mieux communiquer pour l'année d'après, après avoir une meilleure clairvision de l'attitude générale adoptée, pour finir, pour nous raccorder à notre divinité juste avant le basculement, qui n'est qu'un changement de gamme pour faire référence à tes anciens articles, empruntant des références musicales. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, ce monsieur a peut-être annoncé 2019, il va effectivement se passer quelque chose, mais ça ne sera pas le basculement des pôles, à proprement dit, c'est-à-dire qu'il y aura en fait l'axe du pôle nord, en fait, qui va sortir du cône de la stabilité, hein, si tu reprends mes vidéos, et donc la Terre va devenir instable. Et cette instabilité va durer un temps certain, donc ça ne va pas durer un an, deux ans, trois ans, ça va durer un temps certain, parce que ce basculement prendra un certain temps. Donc il y aura non plus un pôle nord, mais des pôles nord et des pôles sud, et ça va bouger, hein, comme au niveau du soleil, il y aura plusieurs, comme il suffit simplement de regarder comment le soleil fait ses basculements de pôle, et on voit qu'il y a toute une période où il n'y a plus de pôle nord ni de pôle sud, et il y en a plusieurs, et ça se balade en permanence. Et donc c'est pour cela qu'il va y avoir une très grosse sélection de la population, et ça va être, on va dire, la deuxième vague de sélection, hein, puisque ça j'en avais parlé dans la vidéo. Première vague de sélection, c'est que quand ça va sortir du cône, le grand événement, ça veut dire que là, un tiers de la population dégage. Ensuite, eh bien, vous allez avoir effectivement cette période de transition où les pôles nord et pôles sud vont se déplacer, il y en aura plusieurs. Et là, ça va être, comme dirait l'autre, ça veut dire que les gens vont être, selon où ils habitent, des fois en direct avec les rayons du soleil et des fois protégés. Donc, la problématique, c'est que ceux qui n'auront pas développé suffisamment leur véhicule de lumière, ben, ils vont se les faire cueillir. Donc, ça va être une sélection dite naturelle. Et c'est pour ça qu'une autre partie de la population va progressivement étaler sur peut-être 10, 20, 30, 40, 50 ans, je ne sais pas, vont disparaître via une mort, on va dire, dite naturelle, hein, tout simplement, enfin naturelle. Vont mourir de maladie, de quelque chose, mais de toute façon vont claquer d'une manière ou d'une autre. Et ceux qui auront développé suffisamment leur véhicule de lumière, eh bien, c'est-à-dire que même quand le soleil les frappera en direct parce qu'il n'y aura plus de bouclier, leur véhicule de lumière servira de bouclier. À partir de ce moment-là, ça ne sera pas un problème. Hein. Et donc, ils pourront passer ensuite donc dans cette troisième vague, qui sera que effectivement le pôle nord sera rentré dans le cône de l'ancien pôle sud. Et à ce moment-là, les choses se stabiliseront beaucoup plus rapidement, puisque la Terre aura retrouvé un pôle nord et un pôle sud, et il n'y aura plus de variation, on va dire, au niveau de la géographie de la planète, et donc ça va amener une stabilisation. Et ceci, ce sera donc la fameuse, on va dire, troisième vague, c'est-à-dire que là, eh bien, ceux qui resteront on va dire incarnés, seront véritablement ceux qui ont tenu le choc et qui auront bien sûr augmenté leur vibration suffisamment pour pouvoir se maintenir dans l'énergie de la planète de ce moment-là. Car vous vous doutez bien que Terre-Mère va continuer à augmenter sa fréquence. Et donc là, le bouclier magnétique va réapparaître. On est d'accord, hein, donc il sera inversé par rapport à avant, et les individus qui seront là, eh bien, vont pouvoir bénéficier de cette énergie, enfin de ce nouveau, on va dire, paradigme, qui sera le paradigme de la cadet, véritablement de la cadet. Voilà, donc oui, c'est simple, hein. C'est pas compliqué, mais ça va pas. Donc, nous sommes en 2015, il va y avoir effectivement d'ici 2019, enfin disons que 2017 est apparemment une année charnière très 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 importante, parce que autant nous allons en 2016 passer en 4D, 2017 c'est la 5D. Or, maintenant, si vous faites une relation, ça correspond bien sûr au moteur du ciel 5D, 6D, mais aussi par rapport à l'arbre sphérotique, ça correspond à la planète qui est tout en haut de l'arbre sphérotique. Ça veut dire que 2017 va être une année charnière très très importante. Alors on peut supposer qu'effectivement 2016 ça va secouer très dur. Donc 2015 là se termine, on va dire, hein, il y a encore une petite saison. Mais ça va remuer, ça va commencer à remuer. Il va y avoir des à-coups, bon, vous allez le sentir, vous le verrez, il va y avoir des à-coups, mais alors 2016, je pense que c'est là qu'il va falloir s'attendre, on va dire, au grand événement, ou aux prémices du grand événement. Et pour moi, le grand événement, c'est 2016-2017, parce que là, quand on va sortir de l'arbre séphirotique, en termes de l'emplacement au niveau du corps, puisque je vous rappelle, il monte jusqu'au cinquième chakra, dès qu'on passera en sixième, on passe à autre chose. Ce qui veut dire 2018, et ensuite 2019, le septième. Donc là, il y a, on verra ce que l'avenir nous réserve, entre guillemets, hein. Apparemment, l'horlogerie cosmique est prévue pour. Maintenant, savoir combien de gens il va rester, ça c'est une question que personne auquel ne peut répondre. Bon. Dans les tablettes, aujourd'hui, on peut dire que nos copains galactiques et extragalactiques comprennent que il y a de plus en plus de lumière qui s'allume. Les êtres de la nature nous font part aussi que les humains sont de plus en plus ouverts par rapport à avant. Mais maintenant, reste à savoir, seront-ils suffisamment ouverts? Hein, c'est pas parce que tu roules que tu dis c'est comme sur l'autoroute. Hein. C'est pas parce que tu dis ça y est, moi j'ai sorti du mode parking et je roule en première ou en seconde sur l'autoroute. On dira oui, mais tout véhicule qui roule à moins de 60 km/h, il va dégager de l'autoroute. Parce qu'il empêche tous les autres de rouler. Donc c'est bien de prendre l'autoroute, mais il va falloir quand même passer la troisième et la quatrième et la cinquième. Ça, on verra. Au final, le lien entre planète, constellation, etc. et notre organisation intérieure doit permettre, il me semble, au planificateur de canaliser l'info générale. Mais ça, c'est pour le collectif, bien sûr. Hein, c'est pour le collectif. Mais à titre individuel, pour chaque mission de vie, c'est l'ADN qui fait le tri, ou les infos sont-elles triées en amont par le planificateur, un peu comme le facteur pour le courrier. Les planificateurs au centre de tri et les anges à la distribution du courrier. Non, c'est pas du tout le cas. Les planificateurs, eux, sont là simplement pour voir si le jeu se déroule correctement et toutes les conditions sont là. D'accord? Mais ce n'est pas eux, hein, c'est-à-dire que c'est comme pour un aquarium, ils vont regarder la salinité de l'eau, l'oxygénation de l'eau, la température de l'eau, la pureté de l'eau, bon, ils vont s'occuper de tout ça, mais ils sont pas à la place du poisson. Donc le poisson doit s'adapter aux nouvelles conditions. Et donc c'est effectivement, comme tu le dis, c'est l'ADN qui va faire le tri. C'est-à-dire qu'en fonction de ton élévation fréquentielle, eh bien ton ADN va accéder à certaines parties de l'information, enfin on va dire va débloquer certaines parties auxquelles qu'il peut mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on parle des 12 brins d'ADN. Pour l'instant, on fonctionne à deux, bon, certains à trois, et petit à petit, à fort à mesure qu'on élève notre fréquence, eh bien, il peut aller commencer à lire et à mettre en œuvre ce qu'il y a déjà décrit sur les autres bandes ADN. Donc, il va pouvoir débloquer, on va dire, certaines séquences de ces bandes ADN, à la seule condition, bien sûr, que ces informations soient envoyées par les planificateurs. Ça suffit pas d'arriver à la porte et verser bien, mais il faut avoir après la clé pour pouvoir l'ouvrir. Donc ces clés sont des codes, et ces codes sont bien sûr envoyés par les planificateurs. C'est ainsi que les planificateurs peuvent, on va dire, contrôler, on va dire, la croissance de ce qu'il y a à l'intérieur de l'aquarium. Hein? ou la croissance des plantes, si c'était une serre. Hein. C'est-à-dire que les codes sont envoyés. Et donc, votre ADN, s'il a trouvé la porte, bah, il dit, bah, maintenant, j'attends le code. Mais si on lui donne des trousseaux de clés et qu'il a, il a pas toujours pas trouvé la porte, bah, parce que la personne n'a pas la fréquence pour arriver à trouver la porte, le trousseau de clés lui sert à rien. Donc, on voit bien que l'ascension est bien une montée en vibration et que cette montée en vibration va permettre à l'ADN de pouvoir aller ouvrir les portes et débloquer donc des capacités, des pouvoirs, entre guillemets, pour retrouver ce que nous avions été dès l'origine, quand nous nous sommes incarnés sur cette planète. Et dernière question, lorsqu'on reçoit des signes-messages, comment savoir, hormis le discernement, de quel niveau cela provient ? Personnellement, j'ai souvent des sensations lors de mes introspections au niveau de l'arête du nez, juste entre les deux yeux, mais, même si sur le coup je me contente d'être simple observateur, une fois le mental revenu sur la position 1, la question se pose. Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les signes et les messages, comme tu dis, on les reçoit en permanence. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est savoir à où se situent tes différents chakras. Et donc, quand tu dis entre les deux yeux, parce que bon, là, c'est un peu ambigu ce que tu me racontes, dis-toi bien qu'au milieu du nez, de l'arête du nez, c'est ton 11e chakra. Ok ? Donc, c'est le 12e chakra, hein, puisque le 11e est exactement sous le nez. C'est au niveau des lèvres, hein, vous savez, il y a une petite canalisation, enfin un petit truc. Là, c'est le 11e. Et donc, quand vous avez au niveau de l'arête du nez, je parle pas entre les deux yeux, hein, je parle pas du 6e chakra. 6e chakra, ça veut dire tout simplement que tu reçois de l'info, on est d'accord. Mais quand ça gigote au niveau de l'arête du nez, ça veut dire que c'est le 12e. Et tu sais très bien que le 12e, c'est bien sûr ton soi supérieur dans la couche la plus élevée, c'est-à-dire la 12e dimension. Donc, quand ça chatouille à ce niveau-là, ça veut dire que tu es en connexion, effectivement. Donc, quand le 6e gigote, mais aussi le 12e, alors là, ouais. Et je te rappelle que le chakra du discernement, c'est le 11e, c'est-à-dire sous le nez. Donc, de toute façon, quand ça remue dans ces zones-là, c'est bon signe. C'est très bon signe. Donc, ça veut dire que l'information est reçue par ton soi supérieur parfaitement. C'est ton soi supérieur qui dit, voilà, hein. Après, bon, le mental, il peut toujours venir, c'est pas un problème.